Les Colibris d'Alès présentent le chant des colibris.
En la forêt des colibris, il y avait un grand incendie, du feu, des flammes, du vent, des cris. Tous les amis des colibris regardaient le feu sans rien dire, n'avaient qu'une idée, s'enfuir. Il restait juste un colibri, jetant des gouttes sur l'incendie. Nous sommes tous des graines de colibri. Dans ma tête il y a du cœur, dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis.
Le chant des colibris. Une émission de Céline Elodie, enregistrée en public au Jeudi des Colibris à Alès.
Dernière émission avant les vacances, les Colibris d'Alès sont réunis à la boutique solidaire de Rochebelle. Et comme chaque troisième jeudi du mois, la soirée conviviale, ouverte à tous, s'organisait autour d'un thème. Cette fois, tout le monde est concerné car on parle du corps et de la santé. L'objectif, changer de regard, changer de posture et surtout changer notre mode de pensée pour se réconcilier avec notre corps. Et ce, grâce à un invité, Pierre Etchart, ostéopathe et philosophe, qui n'a pas hésité à traverser la France depuis le Pays Basque pour répondre à l'invitation. Ce passionné du corps humain remet les choses à l'endroit, les têtes sur les épaules et les idées en place. On l'écoute au micro de Céline Elodie.
Ce soir, l'idée, c'est retrouver l'émerveillement face à la complexité du corps. Et reconsidérer nos symptômes, non plus comme des ennemis à combattre, mais comme nos alliés, nos principaux alliés, pour rester justement sur le chemin de la santé. Alors aujourd'hui, ce qu'on constate, Pierre, c'est qu'il y a une énorme méconnaissance du rôle du symptôme, c'est ça ?
Oui, alors la problématique la plus importante aujourd'hui, c'est que nous avons un système financier, pour prendre juste un petit peu de recul, qui est basé en fait sur l'exploitation du symptôme. Mmh. Et du coup, tout un pan de l'économie dépend de la mauvaise compréhension et de la mauvaise analyse du symptôme. Mmh. Le symptôme, effectivement, c'est aujourd'hui le nerf de la guerre, parce que c'est le seul élément que nous ayons pragmatique, concret, pour essayer de savoir ce qui ne va pas et du coup essayer de faire ce qu'il faut. Donc face à ça, on a uniquement deux possibilités, hein. Soit on l'ignore, à partir de là, comme chez les êtres humains, quand on ignore quelqu'un, on n'apprend pas à le connaître et donc forcément on en a peur. Et si on en a peur, on en fait un ennemi. D'accord ? Donc on peut très facilement se retrouver en confrontation. Et la deuxième possibilité, justement, c'est d'essayer de la comprendre. Dès qu'on la comprend, qu'on essaie de l'étudier, mais finalement, on se rend compte que sa raison d'être est totalement corrélée, en fait, avec notre santé. Ce qui est totalement paradoxal avec ce qu'on nous présente aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, on nous présente que le symptôme, c'est le problème, c'est la maladie.
Exactement.
Le symptôme est la maladie,
exactement.
On nous dit.
Et ce que j'aime à dire, en fait, quand je parle un petit peu de la symptomatologie, notamment avec mes patients, c'est que il faut être vraiment conscient qu'aujourd'hui, pour pouvoir présenter des symptômes et par extension, pour pouvoir être malade, en fait, il faut être suffisamment en bonne santé. C'est-à-dire que, je vais en parler tout à l'heure, mais il y a des types de pathologies, en fait, que je suis dans le cadre de mon activité professionnelle qui reflètent parfaitement ça. Vous avez des gens qui par épuisement, par exemple, que ce soit du système nerveux ou du système immunitaire, comme par exemple dans le cadre de la séropositivité, n'ont aucun moyen, en fait, de savoir ce qu'ils devraient faire pour pouvoir se soigner. Ce qui font qu'ils meurent, en fait, de leur impossibilité à réagir.
Donc, tu veux dire que là, ces personnes-là, elles n'ont pas de symptômes, justement ?
Mais elles ont des symptômes, sauf que leur organisme, en fait, n'ont pas la capacité de mettre en place les symptômes adaptés.
D'accord.
Donc, l'exemple que je donnais, qui est vraiment le plus caractéristique, c'est une maladie extrêmement rare, une maladie congénitale qu'on appelle l'algo-ataraxie. Donc très peu de gens ont entendu parler de ça, parce que c'est quand même très très rare. Donc on a ça dès la naissance. Hein. Et les symptômes sont simplement que les voies de la douleur en fait sont totalement inhibées. C'est-à-dire que ce sont des patients qui ne ressentent pas la douleur. Aucune douleur. Alors Ils ressentent le chaud et le froid, mais ils ne ressentent pas la brûlure, par exemple. Et ces gens-là, donc, où il y a absence totale de symptômes, finalement, en tout cas de la douleur, parce que souvent, quand on parle de symptômes, on parle de douleur, mais ces patients-là, mais ils ont malheureusement une espérance de vie extrêmement courte. Et ils ont une vie qui n'est pas vraiment une vie, finalement, parce que ce sont des gens qui peuvent mourir à n'importe quel moment d'une simple hémorragie. C'est-à-dire qu'ils se font une plaie, ils ne s'en rendent pas compte, et ils se vident de leur sang. Donc ce sont des gens qui doivent vivre confinés, qui doivent avoir du matériel sur eux. Par exemple, le dernier patient que j'ai vu encore il y a 2 semaines, il a plusieurs miroirs, différentes formes en fait, dans son sac. Et après chaque activité, il est obligé d'utiliser le miroir adapté en fait, pour regarder partout sur son corps s'il n'a pas de plaie, si ce n'est pas rentré en clou, si ce n'est pas rentré... Parce que ça va extrêmement vite. C'est-à-dire qu'une contamination ou une inflammation extrêmement rapide, il ne va pas le sentir.
Alors tout ça nous montre qu'effectivement, quand on ressent des symptômes adaptés, là, pour le coup, que notre corps nous prévient « Ah bah attends, là, t'as mal, ah bah attention », c'est qu'on est suffisamment en santé.
Exactement, c'est-à-dire que le fait de mettre en place des symptômes, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie à l'organisme. Parce que c'est notre seul garde-fou, finalement. C'est la seule chose qui peut nous protéger face à la variation de notre environnement. Parce que les environnements sont plus ou moins hostiles. On est en permanence en train de s'adapter et on doit pouvoir répondre à ces adaptations-là. Donc les symptômes, si on n'est pas capable de les faire émerger, c'est-à-dire que si le corps humain n'est pas en état de santé suffisante, eh bien, il ne pourra pas avoir des symptômes adaptés qui pourront nous amener à faire ce qu'il faut. Et ça, c'est un véritable handicap.
Pierre-Etchard, on pourrait imaginer une métaphore du symptôme comme un petit peu les voyants sur le tableau de bord de la voiture.
Bah, c'est exactement la même chose.
D'accord.
C'est exactement la même chose, sauf qu'aujourd'hui, le principe même, je dirais, de la médecine symptomatique, en fait, c'est de traiter uniquement le symptôme. C'est-à-dire que lorsque vous roulez, que vous avez le voyant de l'essence qui arrive, qui s'allume pour vous dire que bon, il vous reste à peu près que 100 km à parcourir avant de tomber en panne sèche. Bon, mais le médicament, lui, son rôle, ce n'est pas de faire le plein. Hein. C'est uniquement de mettre un sparadrap sur le voyant pour ne pas que vous puissiez le voir. Donc, ça ne fait que déplacer le problème et ça ne fait qu'empêcher le système, en fait, de vous avertir d'un danger imminent. Mmh. Et donc, du coup, de faire ce qu'il faudrait pour l'éviter. Mmh.
Donc là, vraiment, ce qu'on comprend par tout ça, c'est que le symptôme, c'est vraiment un allié. Il est là pour nous aiguiller sur la voie qui va nous permettre de faire ce qu'il faut pour que notre corps puisse s'adapter aux variations, etc. Et puis rester en santé.
Exactement, c'est la boussole.
Alors par contre, là où ça devient un peu plus compliqué, c'est comment décoder le symptôme. Parce qu'effectivement, les voyants de la voiture, on nous apprend. On nous dit, bah, tiens, voyant orange, ça veut dire ça. Voyant rouge, ça veut dire ça. Maintenant, nous, face à nos symptômes, on est parfois un peu embêtés. Comment on les décode? Qu'est-ce qu'il veut dire?
Absolument. Mais c'est là où entre en fait toute la complexité de l'être humain et du vivant en général. Et qui fait que moi, j'attache particulièrement de l'importance dans toutes mes interventions à expliquer que aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, si on veut véritablement survivre au monde dans lequel nous vivons, il faut absolument qu'on se réapproprie le savoir. Le savoir, c'est ce qui nous permet de comprendre les principes qui sous-tendent tous les mécanismes avec lesquels nous interagissons. C'est-à-dire que le corps humain vit uniquement grâce à ses échanges avec l'environnement. Si on ne comprend pas comment ces échanges ont lieu, on ne peut absolument pas, si vous voulez, communiquer avec cet environnement et donc avoir un langage approprié. Donc, pour essayer de comprendre justement le sens de ces symptômes-là, la seule façon, c'est d'arriver à acquérir un savoir dans les domaines en rapport en fait avec ces symptômes. Donc, dans le cadre de la santé, il s'agit tout simplement donc, de la physiologie, mais par extension des éléments donc, anatomiques, biochimiques, embryologiques, etc.
Donc là, ce que tu nous dis, c'est vraiment une invitation à se réautonomiser par rapport à nos maladies. Et en gros, vous avez votre enfant, je donne un exemple comme ça, hein. Moi, ça, en tout cas, ça a été mon cas, par exemple. Mon fils qui ronflait, avait des problèmes ORL, un petit peu comme ça. Donc on va avoir un ORL et on n'est même pas encore assis sur la chaise. Il prend la radio et dit « opération ». Non, mais là, c'est une évidence. Opération des végétations, etc. Je dis « excusez-moi, c'est quoi les végétations ?» Et il n'a pas pu me répondre. Donc du coup, après, il faut que je
prenne le temps chez moi de chercher qu'est-ce que c'est les végétations et ah miracle, je découvre que les végétations c'est quelque chose qui évolue. Parfois ça grossit, parfois ça diminue et donc on veut le faire opérer pour quelque chose qui évolue et qui très certainement dans quelques années ne posera plus aucun problème. Donc finalement ce qu'on a oublié de me dire c'est que là on l'opère juste pour être tranquille pour quelques années mais finalement si on attend ça fera la même chose.
Alors il y a plus grave que ça, il y a plus grave que ça parce que l'important dans ces situations là c'est pas tant de voir si ça évolue ou pas, c'est de se demander, par exemple, pour l'exemple des végétations, à quoi ça sert. C'est-à-dire que si c'est là, si c'est dans l'organisme, c'est pas là juste pour la décoration.
Tout à fait.
Et donc, comme toutes les structures, tous les tissus de l'organisme fonctionnent en interaction, ça veut dire qu'il y a des interactions qui ne fonctionneront plus.
Et oui,
donc ça veut dire qu'il y a, ça veut dire que le niveau d'adaptabilité et d'adaptation du corps, donc tout ce qui réfère aux notions d'homéostasie, seront forcément amoindris.
Homéostasie, tu peux nous définir ?
L'homéostasie, en fait, ce sont tous les mécanismes du corps qui se mettent, qui permettent en fait de rétablir et de rééquilibrer toutes les relations au niveau tissulaire. Donc c'est la capacité en fait d'auto-guérison de l'organisme qui est capable à la base de s'auto-gérer, qui se met en œuvre.
Ok. Voilà. Très bien. Et alors donc, pour que ces capacités d'homéostasie puissent œuvrer naturellement, qu'est-ce qui est recommandé ?
Mais c'est ça. Donc on en revient toujours aux mêmes choses, c'est-à-dire que si on veut permettre au corps de fonctionner correctement, donc le laisser fonctionner correctement, il faut absolument connaître en fait les principes.
Les principes.
Qui les sous-tendent. Donc, moi, ce que j'explique toujours, c'est vraiment le meilleur conseil que l'on peut donner, mais qui en même temps est la plus complexe à mettre en application, c'est lorsqu'on dit d'abord ne pas nuire. C'est quelque chose qu'on redit pas assez souvent à mon avis parce que c'est la chose qui semble aux gens le plus simple mais en fait c'est le plus difficile parce que pour ne pas nuire ça sous-entend que l'on connaisse les fonctionnements et les principes qui sous-tendent tout ça. Il y a rien de plus difficile que de pas nuire à quelqu'un par exemple. Nous, si on a un échange, si je ne veux pas nous nuire, ça veut dire qu'il faut que je connaisse votre histoire,
connaisse un petit peu,
vos faiblesses, vos démons et tout ça, pour que je sois dans une bienveillance la plus adaptée possible. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais par contre, on ne peut pas faire l'économie de cela, du savoir, des principes, si on veut effectivement rendre intelligible le langage symptomatique. Parce qu'aujourd'hui, on a clairement décidé de ne pas parler ce langage et de le combattre au lieu d'entrer en communication avec elle.
Alors oui, tu l'as dit en entrée de jeu, si on a fait ce choix, c'est justement parce qu'il y a des grands intérêts financiers à la clé. C'est très intéressant de vendre la pilule miracle pour faire stopper telle et telle douleur et tel problème. La pilule miracle ou l'opération miracle.
Mais il y a un double intérêt, c'est-à-dire que la première, c'est qu'effectivement, comme on ne traite pas la cause, vous maintenez la personne dans un état de maladie, donc c'est ce qui amène l'aberration totale de trouver des gens qui ont des traitements à vie. On le retrouve avec le lévothyrox, on le retrouve avec énormément de traitements, mais c'est une aberration. C'est-à-dire qu'au moment, si vous êtes obligé de vous traiter à vie, c'est que vous ne traitez pas le problème.
Il y a, selon toi, aucun cas dans lequel les traitements à vie est légitime ?
Mais si vous êtes le médicament en soi. Doit être une béquille,
une aide, c'est-à-dire pour aider le corps à se remettre en santé.
Ça doit être quelque chose ça doit être une transition.
D'accord.
Parce que le corps peut être attaqué, peut-être en période de faiblesse. Donc on doit lui donner un soutien. Par contre, si vous êtes obligé de donner un soutien, d'amener un soutien à vie, c'est que vous avez mal compris la problématique, que vous avez mal jugé. C'est-à-dire que vous avez pris un symptôme en fait qui vous avez, enfin vous avez pris une cause alors que c'était un symptôme. Voilà.
Mais c'est souvent. Et du coup, on maintient les personnes dans un état de dépendance terrible, mais qui arrange bien sûr le système, puisque c'est mois qu'on va acheter ces boîtes de médicaments.
Commercialement, c'est imparable. C'est-à-dire que cette allopathie, en fait, crée et génère ses propres patients. C'est-à-dire que vous créez vous-même vos propres clients. C'est d'un point de vue purement économique, sans parler d'éthique, c'est parfait.
Alors, selon toi, qui t'es plongé avec passion dans aussi bien l'anatomie que la physiologie, que l'embryologie, enfin dans tout un tas de sciences assez dures et pointues sur le corps humain, le corps a tout pour être en santé. C'est ton message ?
C'est une évidence, parce que le corps était là avant que nous soyons conscients de notre propre corps. C'est-à-dire qu'il faut remettre les choses à leur place. Avant que cette médecine telle qu'elle existe apparaisse, nous étions déjà là. Donc, on fonctionnait déjà. D'accord. Donc, d'un point de vue de la santé, il est clair que, vu les dernières parutions de l'OMS, on voit très clairement que, d'un point de vue mondial, la santé se dégrade. Ça, il n'y a aucun doute.
Aujourd'hui, on peut dire qu'au niveau global, au niveau mondial, la santé des humains se dégrade.
Il n'y a aucun doute. Il n'y a jamais eu autant de malades, il n'y a jamais eu autant de morts par maladie.
D'accord.
Aussi rapidement, aussi jeune.
Ok. Est-ce qu'on peut le rapprocher peut-être de la pollution qui a atteint des niveaux qu'on n'a jamais vus dans l'histoire de l'humanité
Les facteurs sont
multiples.
Sont démesurés. On en a de plus en plus. Les pollutions maintenant sont partout.
Et est-ce qu'il y a des recherches qui montrent que peut-être une certaine responsabilité de la médecine allopathique justement dans cette dégradation de la santé?
Alors ça, c'est, on va rentrer dans un sujet un petit peu plus tabou, mais effectivement, il y a des choses qui corrèlent effectivement pour montrer que la santé aujourd'hui, on retrouve dans des lacs par exemple des pans entiers de poissons,
des bancs de poissons
qui deviennent stériles. À cause effectivement de la filtration des médicaments qui sont rejetés notamment par les hôpitaux.
D'accord.
Qui filtrent donc au travers de la nappe.
On avait entendu parler du souci des pilules
et tout ça, donc c'est
dans la même veine, mais sauf que c'est les déchets des hôpitaux qui sont terriblement contaminants.
Parce que les patients en fait qui urinent, qui sont sous médicaments très concentrés, rejettent ça dans les égouts, qui parfois ne sont pas toujours traités. Parce que les médicaments sont très 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 difficiles à traiter.
Ce sont des microparticules qui en plus ont des effets cocktails les unes avec les autres, etc.
Absolument. Donc c'est la Terre n'est pas faite pour recevoir autant d'éléments en même temps.
C'est sûr.
Voilà. Donc ça entraîne effectivement des dérèglements assez conséquents.
Ah oui. Donc on constate ça donc vraiment dans les zones proches des hôpitaux.
Oui, dans les zones proches des hôpitaux, mais après à plus grande échelle, on retrouve de toute façon
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un environnement d'une densité de chimique assez hallucinante. Il y a tellement d'émanations chimiques de toutes sortes, aussi bien par les médicaments que par les pesticides, les plastiques.
Chimie,
on est vraiment envahi par plein de molécules dont on ne sait absolument pas quels effets elles auront. Enfin, on commence à le voir, mais c'est assez catastrophique.
On voit déjà, ne serait-ce qu'en mer, on voit la catastrophe que c'est.
Tout à fait.
On est en train de tuer les océans, là, vraiment, à une vitesse exceptionnelle.
Alors, pour revenir à la question de la santé humaine, est-ce que tu pourrais redéfinir, un petit peu nous aider à redéfinir qu'est-ce que c'est que la santé ? Parce que si je t'écoute, finalement, nos symptômes font partie d'un état de santé. Ça remet vraiment en question l'idée qu'on se fait de qu'est-ce qui est être en santé et qu'est-ce qui est être malade.
Oui. Alors, être en santé, à mon sens, ce n'est pas être exempt de symptômes. Ce n'est pas être exempt de maladie. C'est quelque chose qui est beaucoup plus global et qui intègre aussi les types et les qualités de relations que l'on entretient avec notre environnement. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas de symptômes et qui n'est pas malade, mais qui est reclus chez lui et qui n'a pas forcément de lien avec ses congénères, on peut difficilement considérer qu'il soit véritablement en santé.
Mmh.
D'accord. Donc il y a un nombre de paramètres qui aujourd'hui restent mineurs, mais qui pour moi sont majeurs en fait, les éléments de l'environnement, qui ne sont pas intégrés, dont on ne tient pas compte dans cette notion de santé, et qui justement font partie des éléments que je cherche maintenant, enfin avec le travail que je suis en train de faire, à mettre en avant pour remettre en place les priorités.
Oui.
Qu'un être vivant auquel il devrait avoir accès pour pouvoir se prendre en charge et avoir une autonomie, mais en termes de santé générale, vraiment avec un grand S. Hein. Donc on est, en général, quand on parle de santé, on parle immédiatement médecine, hein, alors que pour moi, c'est un pan extrêmement minime, finalement, de la santé.
Oui, ce que tu dis, ça m'évoque un peu ce qu'on peut appeler l'acharnement thérapeutique sur certaines personnes où on souhaite absolument les maintenir en vie alors qu'elles ont manifestement aucun plaisir ou plus aucune joie à être en vie.
Mais il est là le problème.
Donc là, on se pose vraiment la question de la santé. Quoi.
Il est là le problème. C'est-à-dire que dans ces situations-là, clairement, on n'a pas identifié la cause du problème. Et on considère qu'on préfère garder quelqu'un en vie quitte à ce qu'il soit malheureux. Plutôt que de chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'il est malheureux, en fait. En gros, on a l'impression parfois que la médecine nous dit, et je trouve ça extrêmement arrogant, soyez content de ne pas être malade. Vous n'êtes pas malade, donc soyez content, quoi. Je veux dire, ça devrait vous contenter. Alors, effectivement, la santé, ça reste ça reste quelque chose de très important, mais
ça ne fait pas tout.
Ça ne fait pas tout.
On peut être en santé et pas être heureux pour autant.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Selon la définition actuelle de la santé. Donc là, toi, ce que tu aimerais, c'est redéfinir vraiment ce que c'est que la santé.
Ouais.
Tout comme certains travaillent dans le secteur économique à essayer de redéfinir, changer cet indicateur du produit intérieur brut qui ne signifie absolument rien en termes de bien vivre d'un pays.
Tout à fait.
Et essayer de redéfinir ces critères pour voir, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important, quelles sont les priorités pour que les humains soient heureux et vivent en harmonie les uns avec les autres et profitent de leur vie.
Tout à fait.
Écoutez Radio 16, c'était Chambao avec la chanson Camino Interior dans le chant des colibris où il est question de réinventer notre rapport à la santé et au corps. L'ostéopathe Pierre Etchart nous révèle que les symptômes sont en fait un signe de santé de notre corps, une façon de s'adapter à ce qu'il vit. Alors, plutôt que de vouloir éradiquer nos symptômes, voyons comment mieux les comprendre pour rester en santé, grâce à cette interview de Pierre Etchart par Céline Elodie.
On pourrait justement retravailler sur la question du symptôme, parce que l'idée c'est que chacun puisse se réapproprier l'autonomie de gérer sa propre santé, son propre état physique et psychologique. Alors par où ça passe ? Alors, donc tu l'as dit, ça passe déjà par la connaissance, il est important d'avoir la connaissance des principes qui sous-tendent. Donc,
déjà avoir accès au savoir. Ensuite, le transformer en connaissance, effectivement. Mais d'un point de vue plus général, il y a une problématique très importante par rapport à la symptomatologie. Et pour ça, il faut revenir un petit peu en arrière dans l'histoire. La science d'aujourd'hui, elle est essentiellement le résultat d'un paradigme extrêmement...
Récent.
Ouais, récent, mais surtout très matérialiste, en fait. Mmh. Et le principe même du matérialisme, c'est de décomposer les structures pour essayer de les comprendre individuellement. C'est-à-dire qu'on prend, par exemple, on va prendre le corps humain, on décompose le corps humain dans ses différentes structures, c'est-à-dire qu'on va choisir de séparer le foie, du rein, des intestins et compagnie, et séparément, on va tâcher, en fait, de comprendre quelle est leur fonction.
Et d'où les spécialistes.
Et d'où l'apparition, en fait, de la relation que nous avons aujourd'hui aux symptômes. C'est-à-dire que quand on a, par exemple, un symptôme dit hépatique, on va donner une solution hépatique. Alors que pas du tout. C'est-à-dire que le foie, donc, ou les autres organes, n'existent pas, en fait, en tant que tel. C'est-à-dire que cette décomposition que l'on fait, c'est une vue de l'esprit. C'est une fragmentation subjective faite par l'homme, d'accord, uniquement dans le but d'appréhender comme il peut, parce que nous c'est ce qu'on fait en anatomie, parce qu'on peut pas apprendre
tout
si on ne décompose
coup,
pas,
ouais.
On peut pas l'apprendre. Mais par contre, ce que l'on dit, c'est qu'une fois qu'on a appris ça, la première chose qu'on nous dit, c'est de l'oublier. C'est-à-dire qu'il faut réussir à recadrer les différents éléments qu'on a appris séparément,
les remettre dans le contexte,
dans le tout, exactement. Mm-hmm. Parce que ce soit le foie, les intestins ou même le cerveau, n'existent que dans leur relation avec les autres structures.
D'accord.
Donc par extension, le symptôme c'est la même chose, c'est-à-dire que le symptôme que l'on nomme nous hépatique n'existe que dans la relation avec les autres structures. Donc il est complètement aberrant en fait de donner une solution hépatique à un problème dit hépatique. Parce qu'un problème hépatique, ça n'existe pas, en fait. Ce n'est pas parce que les cellules hépatiques sont en train de dégénérer que c'est un problème hépatique.
Ah, d'accord.
Et non. Et non. Parce que si on oublie la relation, par exemple, qu'il y a entre le foie et le pancréas, qu'il y a entre le foie et le duodénum, entre le foie et l'estomac, notamment avec le ligament triangulaire, bon, on ne rentrera pas dans les détails, mais si on oublie... Si on oublie en fait toutes ces relations anatomiques, on n'a pas de vision globale en fait de la structure. C'est comme si vous regardiez la maison au travers du salon et que vous décidiez de faire des travaux pour toute la maison uniquement en regardant le salon.
Oui, oui. J'ai une image qui me vient quand tu parles, c'est la maison avec une grosse faille, et puis au lieu de penser que c'est peut-être le terrain qui bouge, on colmate la faille. Quoi.
Exactement. C'est exactement ça.
Et donc,
c'est exactement ça. Mm-hmm. Et c'est ce qui arrive, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une vision symptomatique extrêmement réductrice et totalement dysfonctionnelle. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on est obligé de reprendre d'autres traitements et qu'on est obligé de prendre des traitements à vie. Parce qu'on n'a pas touché la cible, en fait. On n'a pas compris que ce n'est pas tant le foie, là je prends l'exemple du foie, ce n'est pas tant le foie qui pose problème, même si le symptôme qu'on a repéré nous, parce qu'un symptôme ne vient jamais seul, le symptôme que l'on a repéré nous, parce qu'on a des machines, on a des appareils qui permettent d'analyser certaines choses spécifiques et pas d'autres, eh bien on a décidé de donner un traitement spécifique à cela. Mais le problème, c'est que la complexité de l'humain est beaucoup, beaucoup plus
vaste
difficile
que ça.
À appréhender. Exactement.
Et alors, est-ce que toi, à travers ta pratique d'ostéopathe, tu peux justement appréhender un peu plus cette globalité et arriver à toucher plus précisément la cause
symptômes ? C'est tout le travail et c'est tout le principe, en fait, sur lequel repose la philosophie de l'ostéopathie. C'est-à-dire que la philosophie de l'ostéopathie dit clairement qu'il faut toujours, toujours, toujours rechercher la cause. C'est-à-dire qu'il faut toujours remonter en amont. On va dire, dans l'absolu, il n'existe jamais de cause, il n'existe que des symptômes. La cause, ce n'est que la limite de notre compréhension et de notre connaissance. D'accord, d'accord. Donc aujourd'hui...
Ça donne le vertige quand même un peu.
Ah mais absolument. Mais c'est comme le principe de l'infini. Hein. C'est, on est dans le même... Mais c'est comme ça que fonctionne le vivant. La complexité est telle qu'elle donne le vertige, véritablement. Et c'est là que ça devient passionnant. Parce que du coup, on voit tout un univers, tout un monde qui reste encore à découvrir et à comprendre.
Après, la question, c'est comment, dans une situation où effectivement on a des symptômes qui sont gênants, etc., comment on revient à une situation d'équilibre, sachant que, voilà, comme tu dis, on peut essayer de remonter à une certaine cause qui n'est peut-être jamais l'origine totale, mais
alors comment on fait pour revenir à l'équilibre ? Ce n'est pas parce que justement, conceptuellement, on ne peut pas remonter au-delà qu'on ne traite pas. C'est-à-dire que notre rôle dans la philosophie de l'ostéopathie, c'est effectivement de développer le plus de savoir et de connaissances possibles, donc dans toutes les branches de ce qui existe.
C'est vraiment ce qui est préconisé dans la philosophie de l'ostéopathie ?
Complètement, complètement. Oh. Le fondateur de l'ostéopathie, mais le nombre de choses qu'il savait, le nombre de branches dont il est issu, mais c'était faramineux. Il étudiait un petit peu partout.
D'accord.
Il étudiait un petit peu partout. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est véritablement ça, c'est-à-dire d'essayer de développer un maximum de savoir et de connaissances dans un maximum de domaines pour essayer d'appréhender au mieux,
le plus
à notre petite échelle, d'essayer de comprendre où est-ce que signifie tel symptôme chez ce patient. Parce que là aussi, il y a un piège terrible sur cet héritage, en fait, de cette façon de voir les symptômes. C'est que aujourd'hui, on nous fait croire que un symptôme correspond, en fait,
une solution
ou du moins une représentation. C'est-à-dire que souvent, moi, j'entends dire des patients au cabinet, j'ai eu mal à la gorge, donc ça signifie telle chose.
J'ai une angine.
Exactement. Ou j'ai une angine, ou alors même d'un point de vue, on va dire, symbolique, ça représente telle chose.
Ah oui.
Et ça, je l'entends de plus en plus, ce qui, moi, ne me dérange absolument pas. Mmh.
Par exemple, je vais donner juste l'exemple pour nos auditeurs, j'ai une angine parce que j'ai pas réussi à formuler telle ou telle chose.
Par exemple.
J'ai un truc qui m'est resté coincé en travers de la gorge. On dit souvent que les expressions sont très parlantes.
Tout à fait. Tout à fait.
Un truc bloqué en travers de la gorge, ne pas réussir à digérer ce qu'on nous a dit, etc.
Donc là, on est vraiment dans le symbolisme, qui, bon, moi, ça, voilà.
Aujourd'hui, ça a la cote, la symbolique des maladie a vraiment la cote.
Parce que les gens essayent de trouver des réponses.
C'est ça, les gens ont envie de comprendre.
Parce qu'actuellement, on ne donne pas de réponses, ce n'est pas satisfaisant. Donc les gens, naturellement, vont chercher des réponses là où ils peuvent.
Mmh.
Donc c'est tout à fait normal. Par contre, par rapport à la connaissance que moi j'ai actuellement de la complexité du vivant, ça ne colle pas. C'est-à-dire que par rapport à ce que je vous ai expliqué, donc, les symptômes sont le résultat d'interconnexions et interrelations avec tous les tissus du corps.
Mmh.
Chaque personne est différente. On a tous un terrain complètement différent. Donc, chaque symptôme, même s'il vient à nous dans notre façon de l'appréhender et de le comprendre, pareil, c'est-à-dire que vous allez avoir
un mal
une angine,
de gorge,
moi je vais avoir une
mal
angine,
de gorge, ouais.
Mais la raison qui va faire que moi j'ai une angine et vous avez une angine va être totalement différente.
Mmh.
Et c'est là qu'est le piège, parce que la médecine symptomatologique se base, en fait, sur ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que pour eux, un symptôme égale une réponse.
Mmh. Mmh.
Et donc ça, c'est faire...
Et d'ailleurs, c'est bien la preuve qu'ils ne cherchent pas la cause.
Exactement.
Voilà. Et c'est peut-être justement pour ça, parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement variable d'un individu à l'autre, que du coup, peu importe, ce qui est important, c'est de stopper l'angine, de stopper le mal de gorge.
Voilà. Ou du moins, de le faire taire.
De le faire taire.
Voilà. Et c'est là où, du coup, on rentre dans... On passe d'une dualité à une confrontation. C'est ce que j'expliquais la dernière fois, c'est-à-dire que lorsqu'on dénigre à ce point les symptômes, au lieu de les prendre avec soi comme alliés pour nous permettre d'aller mieux, mais en fait on en fait un ennemi, donc on rentre en confrontation.
Et là on crée une tension contre ce mal de gorge, contre ce truc.
Exactement.
Et on veut s'en débarrasser le plus vite possible.
Et donc moi j'ai l'habitude de dire en fait qu'on se crée donc des symptômes auto-immunes, c'est-à-dire qu'on se génère par notre attitude.
Mmh.
Une confrontation, c'est-à-dire qu'on se scinde, on se sépare avec les fonctions autorégulatrices du corps, et du coup, vous vous battez contre vous-même. C'est-à-dire que votre corps essaye de vous faire comprendre quelque chose, mais vous ne voulez pas, parce que vous vous acharnez un petit peu dans vos croyances, et du coup, vous allez forcément faire fausse route. Donc soit vos symptômes vont augmenter, soit vous allez présenter des symptômes ailleurs.
Différents.
est différent. Mmh. Exactement.
Ce que tu viens de dire, Pierre Etchard, qui est très important aussi, c'est que tu définis le symptôme aussi comme une fonction autorégulatrice, c'est ça, du corps ?
Absolument.
C'est pas seulement un voyant qui indique ce qui ne va pas, mais c'est aussi un effort du corps pour aller mieux.
Exactement. C'est-à-dire que c'est, on prend l'exemple de la fièvre, qui est vraiment la plus caractéristique. Lorsqu'on a de la fièvre, si on l'étudie d'un point uniquement symptomatologique, bon, on va immédiatement prendre des antipyrétiques et puis on va essayer de faire baisser la température. Si on l'étudie d'un point de vue physiologique et organique, c'est-à-dire que quand on s'intéresse aux structures anatomiques qui génèrent et qui créent la température, on comprend en fait sa fonction. Et on comprend que la température n'est que la manifestation du corps qui est en train de se défendre et qui est en train de se soigner. Mmh. Uniquement ça. C'est comme quand vous avez, vous savez, les personnes qui développent les photos, il y a l'ampoule rouge qui s'allume pour dire de ne pas rentrer. Mmh. C'est exactement ça. C'est comme si nous on arrivait dans une maison où il y a quelqu'un qui est en train de faire ça. On dit, oula, il y a cette ampoule rouge qui est allumée. Non, non, les ampoules rouges, moi j'aime pas ça, je vais l'éteindre. Alors que ce n'est que la manifestation, effectivement, que c'est en route.
Mmh. Et donc, on va essayer d'être un peu plus concret sur le cas de la fièvre, parce que même si parmi nous, parmi le public, il y a plein de gens qui sont très certainement déjà au fait et qui voient la fièvre comme une alliée et qui la laissent faire quand elle vient, mais dans la société en général, c'est encore assez mal vu, hein, la fièvre. On en a peur. Voilà. À la rigueur, on veut bien laisser monter jusqu'à 38-39, mais 40, non, ça devient trop. 41, surtout sur un enfant, il faut donner du Doliprane, etc. Moi-même, en tant que maman, malgré que j'étais déjà OK avec le fait que la fièvre, je savais qu'elle était en train de combattre les microbes, mais sur un petit, je me dis oulala, jusqu'où je peux laisser monter et tout ça. Donc, pour expliquer, la fièvre, c'est simplement le corps qui essaye de monter à une température telle que les microbes ne pourront pas survivre, c'est ça?
Alors, c'est-à-dire qu'en général, quand par exemple il s'agit des virus, hein, donc les virus ont besoin de répliquer l'ADN pour pouvoir se reproduire, cette réplication en fait nécessite une certaine température.
D'accord.
Et donc, le fait de monter en température empêche cette réplication. Et comme l'organisme, en fait, l'immunologie fonctionne en deux étapes. Donc, je vais essayer d'être assez bref. Hein. Vous avez, c'est en deux temps. C'est-à-dire, vous avez un premier temps où il y a une mise en place, en fait, d'une quarantaine en urgence pour éviter une prolifération. Pendant ce temps-là, vous avez des petites cellules qu'on appelle des lymphocytes, qui vont aller chercher justement ces éléments, donc ces corps étrangers, hein, et qui vont aller les prendre, qui vont les phagocyter, donc qui vont les manger, ils vont remonter le long du système immunitaire, et là-bas, ils vont faire, donc dans un petit labo, ils vont étudier ce corps étranger.
C'est magnifique.
Non, mais ils vont étudier ce corps étranger, et ils vont générer, si vous voulez, le principe du vaccin par rapport à cette attaque-là.
D'accord.
Mais il faut un délai pour ça, pour le mettre en place. Bien sûr. En général, pour ce qui est viral, c'est 6-7 jours pour générer un vaccin naturel, mais adapté. Et donc, pendant cette phase-là, le corps, il a pour urgence, pour obligation...
D'éviter la prolifération.
De limiter au maximum la prolifération.
D'accord, d'où la température.
Exactement, d'où la température. Okay. Donc, la première phase où vous allez être malade, vous allez avoir de la température, votre température, c'est votre garde-fou.
Et oui.
C'est lui qui va empêcher que le virus, en fait, se dissémine, en fait.
En fait, le corps, il dit, bouge pas, t'inquiète pas, je gère.
Exactement.
Repose-toi, laisse-moi faire.
Voilà, exactement. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, vous êtes fatigué pour mobiliser toute l'énergie sur ce travail d'analyse, en fait, de ce virus-là. Donc, il y a une véritable fonction qui fait que, imaginez-vous, quand vous comprenez ça, d'un point de vue physiologique, la catastrophe que c'est lorsque vous donnez un antipyrétique à la moindre température. L'antipyrétique, donc...
Mais bien sûr, ça baisse la fièvre. Et du coup, là, la prolifération se fait.
Donc, on va être face à une situation beaucoup plus grave et beaucoup plus agressive pour l'organisme. Et donc, on risque de développer des séquelles beaucoup plus importantes. Mmh. Et on risque d'ailleurs d'avoir des éléments tissulaires, notamment du système immunitaire, qui vont être affectés, hein, comme au niveau méningé, par exemple. Et ce sont des zones qui doivent être absolument protégées. Et lorsqu'on fait baisser trop la fièvre, on risque des atteintes de ce niveau-là.
Ça m'évoque quelque chose, ce que tu décris, Pierre Etchard, au niveau des atteintes au système immunitaire. Aujourd'hui, avec des symptômes, des syndromes comme le sida, on atteint un niveau jamais égalé jusqu'à maintenant dans justement la faiblesse du système immunitaire humain.
Ouais.
À quoi, à ton avis, ça peut être dû tout ça? Enfin, je parle pas seulement du sida, hein, mais de toutes les maladies du système immunitaire en tant que tel. On dirait que notre système immunitaire n'arrive plus à œuvrer comme comme il le ferait naturellement.
Oui, il y a énormément d'éléments. Ce qui est clair, c'est que ce sont des conditions que nous avons créées, obligatoirement, parce que c'est moderne. C'est récent, d'accord, cette défaillance du système immunitaire, l'apparition de cette séropositivité, elle est moderne. Donc avant nous, ça n'existait pas. Donc il y a bien quelque chose que nous avons généré, nous avons créé par notre activité, par notre ignorance, par notre arrogance, et qu'on n'ose pas remettre en question, et donc qu'on cherche encore une fois à étouffer en donnant des médicaments pour essayer de pallier à ce problème. L'origine, il est très 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 difficile à établir, je pourrais en parler.
Mais peut-être donner quelques pistes d'idées, en tout cas.
Il y a des choses dont je ne vais pas parler là, maintenant.
Alors, t'en as trop dit. Hein. Allez.
Non, il y a des choses sur lesquelles je me réserve encore, on pourra en parler.
Moi, j'enverrais bien une piste, en tout cas. Ouais, c'est celle de cette aseptisation dans laquelle on souhaite nous faire arriver au monde, déjà, les enfants, les bébés. Et dans laquelle on souhaite nous maintenir, surtout quand on est malade d'ailleurs.
Oui, il est évident que l'héritage de Pasteur a été catastrophique. Hein. On a sombré là. Encore une fois, c'est-à-dire que c'est une extension de la problématique des symptômes, c'est-à-dire qu'on a fait la même chose avec les microbes. C'est-à-dire que les microbes, au lieu de les considérer dans leur contexte et dans leur globalité, on en a fait des ennemis.
Alors qu'en fait, ce sont des alliés de la santé humaine.
C'est plus que des alliés, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les microbes peuvent vivre sans nous, mais nous, nous ne pouvons pas vivre sans eux. D'accord ? Nous sommes essentiellement constitués de microbes. La majorité du métabolisme dans l'organisme, notamment dans l'intestin grêle, se fait grâce à eux.
D'accord.
Tout ce qui existe dans l'environnement et que nous assimilons, c'est grâce à eux. C'est-à-dire que votre nourriture, vous ne pourriez pas l'assimiler sans ça. Des éléments chimiques, même dans la transformation, notamment de la vitamine D par les rayons solaires, par certains microbiotes, en fait, vous ne pourriez pas le faire. Il y a énormément de fonctions. C'est-à-dire que le microbe est une interface entre l'environnement et nous.
Il fait le lien.
Et c'est ce qui permet au vivant, en fait, d'être ce qu'il est.
Donc effectivement, si on les a pris comme des ennemis, d'où cette folie de vouloir se vivre dans un monde aseptisé et du coup peut-être de tomber de plus en plus malade.
Oui, mais ça fait le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que la guerre que nous avons menée contre les microbes, c'est une guerre que nous avons menée d'abord contre nous-mêmes.
Et alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a un peu d'évolution par rapport à ça dans le monde de la médecine ?
Ah mais c'est toujours compliqué parce que la médecine et on va dire les hautes finances sont dictées par des conflits d'intérêts permanents. Donc aujourd'hui, la problématique de la santé et de la raison n'ont pas véritablement leur mot à dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est véritablement l'argent qui décide. Donc, et aujourd'hui, la santé, mais quand je dis la santé, c'est dans le sens du bien-être, hein, c'est pas ce qui génère le plus d'argent. C'est-à-dire qu'une personne malade génère beaucoup plus d'argent qu'une personne en santé. Donc, les décideurs, si vous voulez, n'ont aucun intérêt en soi que les gens
s'autonomisent et soient en meilleure santé.
Voilà. Mais je dis ça sans aucun catastrophisme.
Non,
c'est
juste un constat.
C'est un constat. Hein. Y a pas... C'est comme ça, c'est le monde dans lequel on vit. Donc.
Puisque tu disais tout à l'heure que pour se ré-autonomiser justement par rapport à notre santé, il fallait passer par l'acquisition d'un certain savoir sur comment fonctionne le corps, etc. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'accéder à ce savoir si on ne fait pas des études de médecine. Parce que justement, comme dans l'exemple que je te donnais tout à l'heure, hein, moi je suis friande de savoir, j'ai envie de comprendre, etc. Mais quand je demande aux spécialistes, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que les végétations ? Oh, écoutez, mademoiselle, je ne suis pas là pour vous faire un cours sur les végétations. Si vous voulez savoir, vous ouvrez un bouquin. Moi, j'ai des patients qui m'attendent.
Ouais, mais parfois, les personnes les mieux placées sont celles qui savent le moins aussi. Hein, parce qu'ils sont rentrés dans une telle routine qu'ils en ont oublié même les fonctions. Hein. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que les personnes qui travaillent sur les végétations connaissent parfaitement les végétations. Je veux dire, mais je dis ça sans aucune...
Peut-être que d'ailleurs, s'ils les connaissaient, ils auraient du mal à en arracher comme ça à tour de bras.
C'est bien le problème. Donc il y a un conflit d'intérêts là aussi. Donc c'est pas forcément à eux qu'il faut poser la question.
Je comprends. Alors à qui on la pose la question ?
La question, à mon avis, il ne faut pas la poser en fait. Il faut aller la chercher. C'est-à-dire que pour moi, la plus grande source de savoir, elle se trouve dans les livres et dans la nature. C'est-à-dire que on a aujourd'hui, à l'ère d'Internet, on a la chance de pouvoir accéder quand même à une bibliothèque extrêmement exhaustive.
Tout à fait.
Donc, pour moi, il est très important de commencer par la base, donc de commencer par les structures, de commencer par le concret, par ce qui fait.
Your silence when it's rooted in compliance. To stand firm in loving defiance, make archer alliance, give voice to the fire. Move people to the beat of the wind, gather yourself and begin to dance the song until it ends. We are winners, champions of the light, forming in numbers and might. Keep the truth close in sight. Medicine woman, medicine man, walk in with grace, I know your face and I trust your hands. Medicine woman, medicine man, walk in with grace, I know your face and I trust your hands. Find your teachers in the voice of the forest, some plug you can't ignore this wisdom of the voiceless. Remedies are bountiful and surround us from the garden to the farthest prayer made of stardust. Find your healing in the music that calls you, the voice that enthralls you. What do you belong to? Eyes up, there's the setting of the sun. Give thanks to each and everyone. The lesson is the medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face and I trust your hand. Medicine woman, medicine man, walk in with grace, I know your face and I trust your hand. Back into the messages and action. The art is feeding, stop stuck the disbelieving. Cause the garden holds the shards, the medicine is in the seeds. When we hold tight to our right to protect, and we know our might is tenfold in connection. Our elders hold them bright lights, we protect them. The medicine is evident, the wolf, the hawk, the bear clan. We hold tight to our right to protect, and we know our might is tenfold in connection. Our elders hold them bright lights, we protect them. The medicine is evidence, the wolf, the hawk, the medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face and I trust your hands. Medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face and I trust your hands.
C'était Rising Appalachian avec Médecine dans le chant des colibris sur Radio 16. Ce mois-ci, lors de la soirée des Jeudis des Colibris, c'était l'ostéopathe Pierre Etchart qui venait nous éclairer sur notre rapport au corps et à la santé. Son message invitait chacun à reprendre sa vie et sa santé en main en commençant par s'intéresser réellement au corps et à comment il fonctionne.
C'est-à-dire... Alors, en gros, un conseil très pratique. Pour n'importe qui a un symptôme, tu conseilles d'aller se renseigner sur qu'est-ce que c'est que cette partie du corps, à quoi elle sert, comment elle fonctionne, à quoi elle est liée.
Alors, le problème est pris à l'envers pour moi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir un symptôme pour s'intéresser à l'organisme. Parce qu'on prend le problème du mauvais bout. Il faut toujours travailler en amont. Il faut s'intéresser par nature à l'organisme. C'est-à-dire que l'ostéopathie, c'est une médecine qui est préventive. D'accord ? C'est-à-dire que les gens, au début, je me souviens, ma patientèle me disait « Mais je ne suis pas venu vous voir parce que j'avais pas de symptômes. » Alors je disais « Mais vous savez, les symptômes, on n'en a pas besoin pour travailler. C'est-à-dire, on n'est pas des médecins, on ne travaille pas sur les symptômes. » On s'en sert pour essayer de comprendre où en est le patient et quels besoins il peut avoir, mais par contre, on ne travaille pas dessus. Mmh. D'accord ? Donc, l'objectif de l'ostéopathe, à la base, ce n'est pas de soigner une maladie, c'est d'éviter de tomber malade.
C'est de maintenir en santé.
Exactement. Mmh. Exactement. Parce qu'il y a des principes qui prévaut à toutes les structures du corps. Mmh. Et donc, c'est de vérifier en fonction de la personne, en fonction de son âge, en fonction de ses activités, en fonction de ses projets. Parce que je ne vais pas avoir le même œil pour une personne qui est sédentaire et qui est assise toute la journée dans son canapé et la personne qui va préparer un marathon, d'accord ? Même s'il a les mêmes symptômes. C'est là où on met vraiment les symptômes en perspective. C'est-à-dire que, ok, ça me donne une idée de dans quel état il se trouve, mais par contre, je ne vais pas m'appuyer sur ça pour savoir comment le traiter, avec quelle technique et comment.
D'accord.
Ok, donc on est vraiment dans quelque chose de préventif. C'est un petit peu... pour faire un parallèle, la même chose que le contrôle technique à la voiture. C'est-à-dire que vous n'attendez pas, et d'ailleurs c'est la fonction même du contrôle technique, c'est pour éviter que vous tombiez en panne ou que vous créiez un accident avant de... Voilà. Donc c'est un petit peu le contrôle technique, c'est permettre en fait d'anticiper, parce que comme l'organisme, c'est un système dynamique, il est en permanence en train de s'adapter. Donc il y a forcément une forme d'usure, une forme de fatigabilité qui s'installe. Donc le but, voilà, c'est juste de voir... par rapport à certaines périodes qui peuvent être plus ou moins difficiles, est-ce que les zones ou les structures ou les organes qui sont le plus sollicités sont suffisamment nourris donc par le réseau vasculaire, suffisamment alimentés par le réseau nerveux, et ainsi de suite.
D'accord.
Donc on est vraiment dans une dynamique préventive. Et votre question, elle est vraiment pertinente, parce que le problème est pris à l'envers, mais notre façon de voir fonctionne à l'envers, en général. Donc pour moi, il faut vraiment avoir... une curiosité, c'est-à-dire que tout ce dont je vous parle, l'anatomie, la physiologie, l'embryologie, pour moi, ce sont des choses qui devraient être enseignées à l'école, en fait. Parce que c'est la seule chose qui va vraiment nous permettre de comprendre, finalement, qui on est, comment on fonctionne, et d'avoir un véritable dialogue avec nous-mêmes. Et ne pas être soumis systématiquement à ce terrorisme, en fait, de la peur, parce que c'est sur ça que repose aujourd'hui le système. C'est-à-dire que comme il ne repose sur aucun principe, sur aucun fait physiologique et anatomique, on est obligé d'utiliser la peur. Et d'ailleurs, ça c'est un conseil que je donne à tout le monde. À partir du moment où on vous oblige, où on vous dit de faire ou de prendre quelque chose et que ça génère en vous de la peur, et que vous le prenez, et donc du coup que vous le faites parce que vous avez peur... c'est que vous faites fausse route. Prenez le temps de respirer, de prendre un petit peu de temps, de prendre un deuxième avis sur quelqu'un d'autre. Mais si quelqu'un ose, parce que pour moi c'est un abus de confiance, un abus de faiblesse, ose utiliser de par son autorité la peur pour vous obliger à prendre un médicament, à vous faire vacciner, à faire de la chirurgie, à n'importe quoi, quelle que soit la chose, c'est qu'il n'est pas en mesure en fait d'argumenter de façon factuelle les raisons pour lesquelles vous devez le faire. Donc, il y a vraiment anguille sous roche. Donc, moi, je vous conseille de vous méfier par rapport à ça et de prendre du recul. De ne pas, parce que c'est toujours quand on a peur qu'on prend les plus mauvaises décisions, systématiquement.
Alors, quand on t'entend, on a bien l'impression quand même d'un constat de faillite à deux niveaux, aussi bien au niveau de la médecine, qui a l'air bien... impuissante et bien aussi ignorante, c'est triste à dire, mais face à la complexité du vivant. Et puis aussi la faillite du système éducatif, parce que comme tu dis, c'est quand même des choses de base. L'anatomie, comment ça se fait que la plupart d'entre nous ne savons pas localiser le pancréas, ne savons pas à quoi il sert exactement, et du coup, qui fait que quand on se retrouve avec une maladie, eh ben, on est complètement dépendant de ce que nous dit le spécialiste et de ce qu'il nous conseille de faire, parce qu'on peut pas du tout avoir d'esprit critique là-dessus. Donc effectivement, oui, se réapproprier ce pouvoir, ça passe déjà par comprendre comment ça fonctionne.
Très souvent, me dit, je l'entends systématiquement, on me dit, mais Pierre, écoute, mais on ne peut pas tout savoir sur tout, on peut pas. J'ai un travail, j'ai des enfants, j'ai pas le temps. Alors moi, je dis, mais ok, mais il n'y a aucun problème. Moi, ça ne me pose aucun souci. Hein. Moi, je vous dis juste que c'est un fait. C'est-à-dire que c'est comme ça. Moi je ne suis pas là pour
culpabiliser les personnes.
Exactement, je ne suis pas là pour culpabiliser. Si vous ne pouvez
pas, par contre,
vous devez admettre, vous devez accepter. Derrière.
Au moins avoir la conscience de dire voilà, je ne sais pas et je me trouve dans une situation de dépendance due à ce fait que je ne sais pas.
Mais il faut accepter aussi le fait que notre mode de vie est conditionné aussi pour qu'on nous empêche de s'autonomiser.
Bien sûr.
Donc il y a aussi peut-être à penser à changer notre mode de vie et ne pas considérer notre mode de vie comme quelque chose d'absolu et de factuel.
Bien
c'est
sûr.
Pas forcément comme ça que l'on est censé vivre. Pas obligatoirement, peut-être que oui. Mais ce n'est pas une obligation, il y a peut-être des alternatives.
Je me permets de faire une parenthèse qui pour moi me paraît juste une évidence, c'est qu'effectivement pour pouvoir s'informer, s'éduquer et acquérir du savoir sur toutes ces choses et bien d'autres, ça demande du temps. Et que pour avoir du temps, ça demande de moins travailler. Mais j'ai envie de vous dire que ça tombe très très bien tout ça. Vous avez vu le taux de chômage? Voilà. Aujourd'hui la question c'est juste comment on redistribue la richesse. Et pour ça je vous invite à aller voir le revenu de base. Pour moi, c'est vraiment une idée révolutionnaire qui prendra certainement le temps qu'elle prendra pour se mettre en place, mais qui y viendra.
Mais de toute façon, aujourd'hui, le système est vraiment organisé autour de ça. Il est organisé pour qu'effectivement, la personne lambda n'ait pas le temps, la force, l'envie de s'autonomiser à ce niveau-là, qu'il considère même qu'il en vienne à se dire que c'est impossible, que c'est trop difficile. Qu'il est même incompétent, c'est-à-dire que comme il y a des spécialistes aujourd'hui, on fait pas le poids. Mais bon, le fait de ne pas avoir fait des études ou de ne pas avoir des diplômes ne nous empêche pas d'être curieux et d'avoir envie de s'intéresser non plus. Mais tout le système aujourd'hui, effectivement, est cadenassé autour de ça. Et effectivement, c'est vraiment c'est bien foutu pour que les choses parce qu'effectivement hein, après si on commence à lâcher les chevaux, alors là, c'est clair que la révolution elle est véritablement là. Moi la révolution comme je l'entends, elle est véritablement là, c'est-à-dire que si chaque personne décide de modifier, c'est-à-dire
de reprendre sa souveraineté
et de décider qu'effectivement une journée ne doit pas être métro boulot dodo. Et de prendre un temps, effectivement, pour s'instruire, pour se réapproprier du savoir.
Pour faire ce qui lui paraît essentiel.
Pour décider lui-même, pour lui et pour ses semblables, ou en tout cas pour les gens avec qui il est entouré, ce qu'il veut. Voilà, là, la vraie révolution, elle est en marche. Enfin, à mon sens.
Bon, alors, on y va ?
À mon sens.
Merci beaucoup Pierre Etchard. Je voudrais juste donner avant la fin de l'émission une référence, parce que tout à l'heure donc je t'ai demandé une référence d'un livre qui permet justement de nous donner les premières bases en termes d'anatomie et de physiologie. Et donc tu m'as conseillé Anatomie et physiologie humaine de Hélène Marieb. Oui. Hélène, ça s'écrit E-L-A-I-N-E, Marieb, M-A-R-I-E-B, Anatomie et physiologie humaine de Hélène Marieb. Oui. Merci beaucoup pour cette référence, ça permet de donner un premier ouvrage pour commencer le
juste
le
pour
travail.
Préciser, je parle de cet ouvrage-là parce que il me semble le plus cohérent, parce qu'il est l'un des rares en fait à traiter simultanément et de la structure et de la fonction. C'est-à-dire que c'est un bouquin qui traite et de l'anatomie et de la physiologie. C'est-à-dire qu'on ne sépare pas les deux, parce que là aussi.
Donc l'anatomie, c'est comment le corps est fait, comment sont faits les réseaux, etc.
La structure
et la physiologie, c'est qu'est-ce qui se passe entre tous ces organes,
La structure, c'est la carrosserie de la voiture, et les deux sont indissociables.
Voilà une bonne idée de lecture pour cet été et une graine de plus de semis dans la reconquête de notre autonomie à chacun. Et cette révolution intérieure est l'étape indispensable pour changer le monde. Alors, on y va ?
Ces colibris, les animaux, tous leurs amis se sont rués comme un sali. Ça y est, l'histoire s'arrête ici, sans dire la fin de l'incendie. L'important c'est les colibris et leur courage et leur génie. Au paradis des colibris, il y aura des ogres et des gentils, des grands, des gros, des minces, des petits. Au paradis des colibris, au paradis. Oh.
Pour rejoindre les Jeudis des Colibris, c'est le troisième jeudi du mois, à la boutique solidaire au 5 Faubourg de Rochebelle à Alès. Et pour réécouter cette émission, c'est quand vous voulez sur le www.radio16.net.